Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 31 de la saison 4. Voici plusieurs semaines que je vous partage le lien d'une enquête qui me semble essentielle pour quantifier nos familles et qualifier nos parcours dans le monde de la parentalité. Cette enquête, c'est celle de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui s'intitule « AMP sans frontières ». Son titre est très évocateur de son angle de recherche. L'idée est de recenser les personnes ayant eu recours à la PMA à l'étranger, quelle que soit leur configuration familiale et les raisons de ce recours. Plusieurs associations ont été intégrées à la conception du questionnaire, des associations qui apportent leur soutien aux parents solo, aux parents ayant recours à une GPA, aux parents LGBTQIA et aux parents ayant recours à une PMA. La réussite de cette enquête dépend de nous tous et de notre engagement à y répondre. Et nous savons combien il est difficile d'obtenir des données chiffrées concernant nos familles et combien elles sont sous-estimées dans le paysage public. Alors cette enquête est, à mon sens, une véritable opportunité pour nous de nous visibiliser. Pour que vous compreniez mieux les motivations des chercheurs qui sont derrière ce projet, j'ai invité Virginie Rosé, chercheure en infertilité, reproduction, genre, famille, santé et droits sexuels à l'INED, et Élise Delaroche-Brochard, chercheure en santé reproductive, fécondité, famille, conjugalité, santé et droits sexuels à l'INED aussi, afin qu'elles nous exposent le cheminement qui les a menées à développer cette enquête. Je vous ajoute ici le lien de l'enquête, n'hésitez pas à y répondre. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ajoute juste que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, et en note de cet épisode. Bonjour Élise, bonjour Virginie.
Bonjour. Bonjour.
Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement. Ça me paraissait hyper important et nécessaire que, qu'on véhicule un peu d'informations sur cette enquête que vous menez parce que c'est tout à votre honneur. Nous, on est très, très, très en attente. Alors, je dis nous, je parle de nous, les familles concernées et nous aussi, le collectif famille, très en attente de chiffres. On passe notre temps à dire qu'on n'a pas de chiffres, qu'on n'a pas de données concernant nos familles. Et en fait, il y en a. Qui sont en train, il y en a déjà, et il y en a qui sont en cours de récolte, on va dire, par le biais de votre enquête, qui est donc AMP sans frontières, dont le nom est AMP sans frontières. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Élise Delaroche-Brochard, je suis chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. Je suis épidémiologiste de formation et je travaille sur les personnes infertiles ou qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation en France.
D'accord. Et tu travailles là-dessus depuis combien de temps ?
Alors, je travaille dessus depuis ma thèse que j'ai soutenue en 2000, donc ça fait quelques années que je travaille sur le sujet. J'ai mené entre autres une étude avec 8 centres de PMA en France où on a étudié la trajectoire de 6000 couples qui avaient eu recours à la FIV en France. Wow. Et on s'est intéressé à la fois à ce qui s'était passé dans le centre, est-ce qu'ils étaient arrivés à avoir l'enfant qu'ils souhaitaient dans le centre, mais on les a également recontactés 8 ans après pour savoir ce qu'ils étaient devenus. Et on a eu une grosse surprise, une bonne surprise. On s'est rendu compte qu'une proportion assez importante, une personne sur 4 qui n'avait pas eu d'enfant durant le traitement, était finalement devenue parent ensuite naturellement.
Wow.
Ils avaient eu une grossesse qui était survenue dans les années qui avaient suivi. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui étaient devenues parents en adoptant un enfant. Et donc, au final, on a mis en évidence que 7 personnes sur 10 qui fait un traitement PMA en France finit par avoir un enfant, que ce soit dans le centre ou après.
Ah oui, c'est hyper intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. Merci. Et Virginie ?
Donc, moi, je suis Virginie Rosé. Je suis également chercheure à l'INED et je travaille aussi sur toutes les questions sociales liées à l'infertilité, au recours à la procréation médicalement assistée, donc à la PMA, et sur d'autres sujets plus proches, enfin toujours sur la santé reproductive et sexuelle et les droits reproductifs et sexuels.
D'accord. Et pareil depuis un temps certain.
Depuis quelques années, voire décennies également, oui, oui, oui.
Donc vous êtes clairement deux personnes très maîtrisantes, très certainement beaucoup plus que la plupart d'entre nous. En tout cas, je parle vraiment sur la perception et l'évolution, on va dire, de la situation depuis les années 2000. Est-ce que, parce que là, il y a une étude qui est menée, qui est en cours, mais je sais que vous avez mené d'autres études auparavant concernant justement ces données autour de l'AMP à l'étranger. Est-ce que vous pouvez me raconter, vous étiez ensemble hein, toutes les deux quand vous avez mené la première étude, c'est ça ?
Oui, oui, ouais. Toujours.
Est-ce que vous pouvez me raconter du coup, déjà, comment vous est venue cette idée ? Parce que à l'époque, donc... Je vais rien spoiler, mais en 2010, c'était quand même encore relativement marginal. Donc, il fallait avoir l'idée de s'intéresser à ce sujet-là. Comment c'est venu pour vous ?
En fait, c'est venu d'une première étude que j'ai menée avec Magali Mazoui sur l'infertilité en France. Et là, on a interrogé des couples hétérosexuels qui souhaitaient avoir un enfant et qui n'y arrivaient pas, dont certains couples qui étaient déjà en démarche de PMA. Et dans cette étude, il y a certaines personnes qui se posaient la question d'aller à l'étranger, en fait. Et donc, on a essayé de se documenter un peu sur le sujet. Et on s'est aperçu qu'on n'avait rien en France pour comprendre, rien de concret, d'empirique, qui permettait vraiment de comprendre et d'analyser pourquoi les personnes partaient à l'étranger, comment ça se passait, qu'est-ce que ça voulait dire sur la prise en charge en France. Et alors que justement, dans la littérature plus internationale, il y avait des travaux qui commençaient un peu à émerger. On appelait ça même à l'époque le tourisme procréatif, qu'on a déconstruit par la suite. Mais donc du coup, en échangeant avec Élise, on s'est dit il faut absolument mettre une étude en place pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe, quoi. Voilà.
Oui.
Et c'est comme ça qu'est née la première étude sur les recours transnationaux de personnes qui résident en France et qui partent à l'étranger pour avoir recours à une PMA.
Et cette étude, du coup, vous l'avez réalisée où et sur quelle période de temps ?
Alors, c'est une étude qui a été réalisée en 2010-2012. C'est Virginie qui a été sur le terrain. Elle a été en Grèce, elle a été en Belgique et en Espagne pour interroger des Français qui étaient dans des centres à l'étranger. Et donc, il y avait deux propositions qui étaient faites aux personnes qu'elle rencontrait. La première, c'était de remplir un questionnaire qu'on avait conçu ensemble et qu'on a analysé ensuite. Et puis, elle leur proposait également un entretien avec elle qui était un peu plus long où ils pouvaient raconter plus en détail leur parcours.
D'accord. Donc, c'était comme cette fois-ci une étude à la fois qualitative et quantitative, c'est ça ?
Exactement.
Sachant que c'était d'une amplitude moindre de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle.
D'accord.
Quoi. Voilà, c'était vraiment dans dans seulement 3 pays, dans un centre, voire 2 centres par pays. Donc, au total, on a eu quand même moins de questionnaires et d'entretiens que ce qu'on projette d'avoir là pour cette étude.
D'accord. Et comment vous aviez sélectionné les pays à l'époque? Bon, Espagne, Belgique, on se doute, c'est la Grèce où je suis plus interrogative.
En fait, on a fait une étude préliminaire auprès essentiellement d'associations et en rencontrant pareil les personnes concernées par ces recours, en rencontrant les responsables d'associations également, quelques professionnels de santé aussi. Et en fait, ce sont les pays qui ont émergé comme étant des destinations phares pour les personnes qui résident en France. En fait.
D'accord. Ah, c'est marrant. Franchement, c'est vrai que... Alors, je parle bien pour nos familles. La Grèce, c'est pas un pays de première intention. D'ailleurs, je sais même pas si en Grèce, la PMA est ouverte à tous. Je suis pas sûre du tout.
Ça m'étonne pas parce que de ce qui ressort de cette première étude qu'on a menée en 2010 et 2012, en fait la plupart des personnes qu'on a rencontrées dans le centre médical grec, c'était essentiellement des couples hétérosexuels qui étaient là-bas pour bénéficier d'un don d'ovocytes.
D'accord.
Donc voilà, ça peut s'expliquer aussi. C'est une destination. En fait, les destinations, elles s'organisent un peu en circuit. En fonction des caractéristiques sociodémographiques, des profils des personnes et en fonction de la technique visée. Donc c'est vrai qu'en Grèce on a plus ce profil, alors qu'en Belgique on va plutôt dans notre étude, hein, on a eu plutôt des couples de femmes et des femmes seules qui cherchaient à bénéficier d'un don de sperme.
Oui.
Mais on a aussi peut-être l'impression que la place de la Grèce a pas mal diminué. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ces destinations, elles vont évoluer dans le temps et un pays qui va être une destination importante à un moment, la Grèce en 2010, c'était quelque chose qui était assez connu, qui était une destination qui avait une certaine visibilité, vont disparaître plus tard, quelques années plus tard. Et donc, c'est vraiment un paysage qui est tout le temps en train de se remodeler. Et donc, c'est pas des circuits qui restent pendant 15 ans sans bouger.
Oui. Puis même nous, on le constate, hein, que la destination est vraiment, le choix de la destination est vraiment lié effectivement au choix de la technique que l'on vise, puisque par exemple la FIVROPA, on peut pas la faire partout. Donc si on souhaite une ROPA, il faut aller forcément en Espagne. En tout cas pour le moment, parce que les lois vont aussi évoluer, et donc du coup forcément d'autres destinations vont s'ouvrir en fonction de l'évolution des lois.
S'ouvrir ou se fermer.
Exact. Exact, parce que je pense notamment à l'anonymat des donneurs qui peut changer en fait en fonction des lois. Et c'est vrai qu'en Belgique, par exemple, ils sont revenus en arrière sur l'ouverture des donneurs et maintenant on est passé à de l'anonymat complet. Donc en fonction de ce qu'on souhaite pour nos enfants, on bouge aussi. D'accord, c'est hyper intéressant. Et donc votre étude, la première, elle vous a apporté quel type de résultats? Et surtout, en fait, qu'est-ce qui a fait que dans cette étude, vous avez dit qu'il en faut une deuxième?
Alors, elle nous a apporté des résultats, je dirais, très intéressants, parce que ça nous a ouvert de nouvelles portes pour de recherche. Donc, on était parti sur l'hypothèse que les gens qui partaient à l'étranger, c'était essentiellement des personnes qui ne pouvaient pas avoir accès à la PMA en France. Uh-huh. C'était l'hypothèse qui courait dans les médias et qui était la plus vraisemblable à ce moment-là. Et à partir des données qu'on a récoltées, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait bien sûr des personnes qui pouvaient pas avoir accès à la PMA en France, mais il y avait également des personnes qui auraient pu légalement accéder à la PMA en France et qui partaient parce que le cadre français ne leur convenait pas. Alors, il y avait deux grands problèmes qui émergeaient. Le plus important, c'était l'accès aux dons d'ovocytes, qui reste une question d'actualité aujourd'hui, avec des délais très importants et du coup qui pousse certaines personnes à partir à l'étranger. Et puis d'autres personnes qui étaient pas en accord avec le cadre français, en particulier la question de l'anonymat des donneurs qui peut poser problème, et du coup elles préféraient partir à l'étranger pour avoir un accès à la PMA qui correspondait mieux à leurs besoins et à ce qu'ils souhaitaient. Et du coup, ça, c'était vraiment un résultat important sur lequel on a eu pas mal de retours. En fait, c'est cette question finalement du fait que accéder à la PMA, c'est pas qu'une question de légalité, c'est aussi la possibilité de le faire concrètement. Donc la question des délais d'accès et puis la question d'être en accord avec le cadre qui est proposé légalement. Donc ça, c'était ce qu'on a vu. Et puis sur ce qui manquait dans l'étude, peut-être Virginie, tu peux intervenir là-dessus.
En fait, on a avant de revenir sur ce qui manquait, un des résultats aussi qui a été étonnant par rapport à ce qu'on avait pu lire dans la littérature et qui méritait aussi un peu d'être creusé, c'est qu'on s'est aperçu que les personnes qui partaient à l'étranger, c'était pas forcément des personnes qui appartenaient à la classe sociale supérieure, qui étaient diplômées, qui étaient riches. Il y avait aussi des personnes, enfin en tout cas dans notre étude, des personnes beaucoup plus modestes et qui du coup développaient des stratégies pour pouvoir financer ces recours qui sont quand même assez importants parce qu'il y a le trajet, il y a la prise en charge médicale qu'il faut du coup payer, enfin voilà, il y a toutes les dépenses annexes et donc beaucoup de personnes, enfin il y a parmi les personnes les plus modestes, il y en a qui font des emprunts à la banque, à des proches. On a rencontré aussi un couple qui avait décidé du coup de faire une colocation, de vivre en colocation pour pouvoir économiser sur les dépenses quotidiennes et notamment de loyer pour pouvoir financer justement le don d'ovocytes en Grèce. Donc voilà, donc on a ces deux résultats, le fait que des personnes qui auraient pu être prises en charge en France partent quand même, le fait que ça concerne pas, contrairement à ce qu'on a vu dans la littérature, que des personnes voilà avec un certain profil sociodémographique, ça nous a interrogé et c'est vrai que nous on avait peut-être pas assez de données pour avoir justement une description fine des parcours, des trajectoires et notamment des caractéristiques sociodémographiques. Et on n'avait surtout pas assez de données pour estimer le nombre de personnes concernées. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on nous interroge sur les recours, c'est mais combien sont-elles, combien sont-ils à partir? Et c'est vrai qu'on n'a pas de données. Ces données n'existent pas, mais même elles n'existent pas dans les autres pays européens. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place une étude pour arriver à décrire scientifiquement voilà les profils des personnes concernées et à estimer le nombre de personnes concernées par année.
Et du coup, vous faites une distinction. Enfin, je suppose qu'il y a des questions qui ont été prévues pour distinguer les couples hétéros des couples homo qui se rendent à l'étranger ou des femmes seules d'ailleurs.
Alors le questionnaire. Alors pour revenir sur le, je vais répondre, oui, mais d'abord pour dire, on a du coup on a mis, on s'est aperçu dans la littérature, mais aussi à partir de notre étude de 2010-2012, que Internet c'était vraiment le lieu privilégié pour avoir des informations et puis pour organiser justement tous les recours, Internet et les associations. Et donc du coup on s'est dit pour essayer de capter les personnes concernées, le mieux et de mettre un questionnaire, bon, bien sûr anonyme et confidentiel, sur Internet, comme ça a été identifié comme un lieu privilégié. Et donc là, on a mis un questionnaire, et le questionnaire, on a essayé de le concevoir le plus inclusif, enfin pour qu'il soit le plus inclusif possible, pour que les mêmes questions soient justement posées aux différents profils de personnes qui sont concernées. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est en fait l'idée, c'est de comprendre en fait, parce que c'est vrai que nous, alors je parle des familles LGBTQIA, on a tendance à trouver qu'on manque énormément de données chiffrées, mais en même temps, je sais que normalement, on n'a pas le droit de poser des questions trop intrusives sur ou trop discriminantes. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, je sais que par exemple sur tout ce qui va être recensement, la question de connaître l'orientation sexuelle de quelqu'un, comme la couleur de peau de quelqu'un, c'est interdit. Donc forcément ça biaise un peu, en même temps on comprend le pourquoi, mais c'est vrai que du coup ça nous empêche d'avoir des données pertinentes.
Alors en fait c'est pas interdit de poser des questions sur l'orientation sexuelle des gens ou sur leur identité de genre par exemple, La seule chose, c'est que pour avoir le droit de poser ces questions, il faut passer sur tout un ensemble de procédures réglementaires qui sont assez longues. Donc, on explique ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, est-ce que ça se justifie, et comment on protège les données des gens. Et donc, on construit un dossier assez précis qu'on dépose à la CNIL, qui évalue le dossier, avec laquelle on discute. Nous, on a déposé un dossier, nous a envoyé, il me semble de mémoire, une quarantaine de questions wow. où ils nous ont demandé des précisions pour s'assurer que tout était vraiment bien cadré. Les questions posées vraiment, enfin, ils avaient aucune question sur la légitimité. Est-ce que ce qu'on faisait avait du sens? Est-ce que c'était pertinent scientifiquement? Ça, ils ont été convaincus tout de suite sur cet aspect-là. Par contre, ils avaient beaucoup de questions sur la protection des données où ils nous ont demandé des précisions et ils ont validé notre dossier. Donc, c'est vraiment des questions qu'on peut poser à condition d'avoir un cadre qui est bien sécurisé, où on est sûr qu'il n'y a aucun risque qu'on puisse remonter aux personnes, en particulier évidemment pour notre enquête où c'est un sujet assez sensible hein, de partir à l'étranger ou de faire venir du sperme en France. On interroge un peu toutes ces pratiques dans l'enquête. Mmh. Et donc la question de la sécurité est gérée au centre de l'enquête. On a travaillé pendant 2-3 ans avec les ingénieurs du service des enquêtes de l'INED pour pouvoir mettre en place cette enquête et être sûr que tout était bien borné pour avoir une enquête qui soit parfaitement sécurisée.
Oui, impeccable. Et vous avez aussi travaillé avec un grand nombre d'associations de personnes ayant recours à l'AMP, donc que ce soit des mamans solo, des couples hétéros, des personnes qui vont avoir recours aussi à la GPA, et puis évidemment des associations qui regroupent des parentalités LGBTQIA.
C'est bien. Tout à fait. Oui, en fait, on a, bah, comme je disais, on a Internet qui est vraiment un lieu, voilà, privilégié pour se renseigner et puis pour organiser ses recours. Mais il y a aussi les associations qui sont apparues comme très importantes dans notre première étude. Donc, il nous semblait vraiment indispensable de travailler, voilà, avec ces associations, ne serait-ce que pour diffuser l'enquête et essayer d'avoir le plus grand nombre de personnes qui répondraient. Mais en amont, en fait, ce qui nous semblait encore plus important, c'était d'essayer de construire un questionnaire qui soit à la fois au plus près de la réalité vécue par les personnes justement qui partent à l'étranger, qui recourent à la PMA ou à la GPA et qui vont à l'étranger pour réaliser justement cette PMA, cette GPA. Donc ça nous semblait très important d'avoir voilà quelque chose d'ancré dans la réalité, mais tout en même temps qui soit pas considéré comme comment dire qui soit pas le mot me revient pas, qu'il soit pas intrusif, trop intrusif, qu'il soit pas violent, que les questions soient les moins intrusives et les moins violentes possibles pour les personnes concernées. Donc voilà, s'il y avait cette double face en fait à respecter, c'était très important pour nous. Et les associations sont les plus à même de nous conseiller et de réorienter nos questions si besoin pour être très très respectueux de ce côté-là. Mais dans l'équipe, il y a aussi des professionnels de santé pour les mêmes raisons, pour avoir vraiment quelque chose de très ancré dans la réalité et de respect des personnes, parce que les professionnels de santé qui sont dans l'équipe, ce sont des professionnels qui ont travaillé ou travaillent à l'étranger avec une patientèle française. Donc voilà, donc on a décidé de créer un consortium avec voilà des responsables d'associations, des professionnels de santé et des scientifiques pour voilà avoir une enquête la plus pertinente, la plus solide scientifiquement, mais aussi la plus respectueuse et inclusive possible et qu'elle soit le moins dérangeante possible pour les personnes concernées.
Mmh. Et au niveau de la promotion de l'enquête et de sa diffusion, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Parce que je suppose que ça reste une enquête scientifique, vous restez un organisme scientifique. Je me doute que c'est pas forcément simple de diffuser ce genre d'enquête. Comment vous avez fait? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place?
Alors c'est vraiment, je dirais, la partie la plus difficile pour nous, c'est d'arriver à faire connaître l'enquête auprès des personnes concernées. Mmh. Alors, comment on fait? Eh bien, nous, en tant qu'institut de recherche, on n'est pas les mieux placés parce qu'on n'est pas évidemment en contact avec les personnes concernées. Donc, on s'appuie encore une fois sur les associations. C'est vraiment des partenaires de cette recherche. C'est ce qu'on appelle, nous, de la recherche participative, c'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas des scientifiques, donc ici des associations, pour concevoir la meilleure enquête possible, comme l'expliquait Virginie, mais aussi pour mener l'enquête. Et donc, c'est les associations qui font connaître notre enquête en la diffusant auprès de leurs adhérents et adhérentes, en faisant des posts sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, on essaye également aussi d'intervenir au maximum. Donc, on te remercie beaucoup de nous avoir invités dans ce podcast parce que c'est aussi pour nous l'occasion de faire connaître l'enquête et puis de pouvoir répondre un peu aux questions pour expliquer ce que c'est que cette enquête. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'avoir ce genre d'occasion pour pouvoir échanger sur l'enquête.
Je vous en prie, mais pour nous, c'est trop important aussi de commencer à avoir des données et de... Et de pouvoir se baser sur des choses scientifiques, enfin sur des chiffres ou sur des études scientifiques pour apporter des confirmations, parce que ça ne va faire que confirmer ce qu'on sait déjà, mais des confirmations que nos familles vont bien, que nos enfants vont bien. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le sens de l'enquête. Vous êtes plutôt sur l'amont, sur le comment on conçoit nos familles, mais ça prouve bien que, en tout cas, on mène des projets qui sont hyper riche, certes, mais assez lourd en termes d'organisation et d'investissement, parce que ces enfants, on les désire plus que tout.
Je pense surtout que c'est des projets qui sont extrêmement réfléchis dans tous leurs aspects, et c'est vrai que probablement ça fait une spécificité, un contexte où on accueille l'enfant dans un projet qui a été vraiment penser, parce que c'est des familles qui font face à des questions que l'on ne se pose pas d'ordinaire. Donc, effectivement, c'est probablement un accueil de l'enfant qui est très riche, comme tu dis. Est-ce qu'il y a eu toutes ces questions qui ont accompagné, je dirais, la venue de l'enfant?
Oui, complètement. On est convaincus. Mais on sait qu'il faut convaincre, qu'il n'y a pas que nous à convaincre. Donc forcément, c'est ce type d'études. Enfin, nous, on vous remercie parce que on est vraiment en attente de la considération, même de la visibilisation de nos familles. Et jusqu'à présent, le fait qu'il n'y ait pas d'études, ça voulait presque dire qu'il n'y avait pas, enfin qu'on était hyper marginal. Nos familles étaient marginales, quoi. Donc voilà. Donc du coup, pour résumer, on peut retrouver donc votre enquête sur le site AMP Sans Frontières. Le lien de l'enquête est sur le site AMP Sans Frontières. Moi, je le remettrai de toute manière en lien de la diffusion de cet épisode, et puis je le remets régulièrement en story. Le collectif Famille le fait aussi, et puis toutes les associations dont on a parlé. Alors, on n'a pas cité le nom de chaque association, mais globalement, la représentativité est bonne de toutes les typologies de familles et de modes de conception. Donc ça, voilà, je pense que là, on commence à vraiment avoir une bonne diffusion. Je vous remercie beaucoup, Virginie et Élise. C'était un vrai plaisir. Moi aussi, ça m'a fait
merci à toi.
Découvrir cette enquête, un petit peu les dessous. C'est hyper intéressant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Hier marquait les 10 ans du vote de la loi du mariage pour tous. Le 23 avril 2013 était une belle revanche sur ces marées humaines qui ont déferlé sur la France pour donner leur avis sur un droit qui ne les concernait pas. À cette époque-là, Juliette avait seulement quelques mois et nous étions extrêmement reconnaissantes aux personnes ayant défendu nos droits, que ce soit durant les manifestations, au cœur des débats, dans l'hémicycle, mais aussi et surtout à celle qui s'est engagée dans ce combat, Christiane Taubira. À la tournure de cette phrase, vous pouvez comprendre que nous ne nous sommes pas mêlés à ces manifestations. Nous avions trop peur pour Juliette. Nous ne voulions pas la brandir comme un étendard et probablement la mettre en danger durant ces manifestations. Aucun jugement de ma part pour toutes nos familles qui ont défilé pour se visibiliser. Bien au contraire, il en fallait du courage. Et nous ne l'avions pas à ce moment-là. Vous connaissez l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Nous l'appliquions à la lettre. Aujourd'hui, nous militons toujours à notre façon, mais rarement dans les foules. La suite, vous la connaissez. Grâce à cette loi, nous nous sommes mariés le 23 août 2013. nous avons lancé presque immédiatement la procédure d'adoption afin que Aude soit reconnue comme étant la deuxième maman de Juliette et puisse ainsi exercer l'autorité parentale et être sécurisée dans la place qui était la sienne depuis la conception de notre fille. 2 ans plus tard, nous avons relancé un bébé et sommes revenus de notre PMA en Belgique avec 3 bébés dans nos bagages qui ont pu être adoptés comme leur grande sœur dans les mois qui ont suivi. Nos histoires sont importantes pour que l'histoire se souvienne et cette date du 23 avril 2013 a à jamais changé le cours de nos vies. Comme chaque année depuis le début du podcast, je vous ai préparé quelques épisodes dédiés aux demandes en mariage qui sortiront la semaine de la 2e date importante de cette transformation profonde de nos droits, le 17 mai, qui marque, lui, la promulgation de la loi. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Je vous précise ici que vous pouvez souscrire des plans de soutien sur ma page Steady, dont vous trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast. Et parce que votre soutien, quel qu'il soit, est précieux, vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en partageant le compte Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories ou sur votre compte. Vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Alone.